Universelle. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 4 août 2014. Au micro, Camille Grosdidier et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Camille.
Alors au sommaire ce soir, ouverture à Washington du sommet États-Unis-Afrique.
Ce sommet convoqué par le président Obama va certainement être un moment de déclic pour apporter des réponses attendues sur notre coopération commune.
Le président sénégalais Macky Sall.
Reprise à Dakar du procès de Karim Ouad, fils de l'ancien président Abdoulaye Ouad, accusé d'enrichissement illicite.
Un mouvement de grève et une manifestation de femmes perturbent les activités à Bangui.
Il faut que le VTO présidentiel, CNT et puis la primature restent pour continuer la transition.
À Gaza, nouvelle frappe israélienne peu après la déclaration par Sall d'un cessez-le-feu unilatéral.
Et bien sûr, nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais tout d'abord, le journal.
Ouverture ce lundi à Washington du sommet États-Unis-Afrique. L'objectif du sommet est de renforcer le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique et de favoriser le développement inclusif et durable sur le continent. Il y aura notamment le 6 août des discussions sur les thèmes suivants: investir en Afrique, paix et stabilité régionale, gouverner pour la génération future. Le secrétaire d'État John Kerry a prévu de rencontrer plusieurs dirigeants africains aujourd'hui. Nicolas Pineau.
Oui, le sommet de Washington a commencé par des entretiens bilatéraux que le secrétaire d'État américain John Kerry a eu notamment avec le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, à venir également Pierre Nkurunziza, le président du Burundi, et également le président mauritanien en fin d'après-midi, Ould Abdelaziz. Alors ces entretiens sont intéressants car Washington a une position très ferme concernant la non-modification des constitutions. Et c'est un dossier brûlant, notamment au Burkina Faso, au Burundi et en RDC. Nul doute que le chef de la diplomatie américaine a insisté sur ces entretiens. Aujourd'hui, pas de rencontre entre Barack Obama et les chefs d'État africains. Ce sera demain pour une ouverture, on va dire, plus officielle, avec des entretiens directs entre les chefs d'État et le président américain. Nicolas Pizzo, Washington, la voix de l'Amérique.
Alors, parmi les chefs d'État africains présents à ce sommet, le président Macky Sall du Sénégal, président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, Idrissa Sédoudia a demandé au président Sall ce qu'il attendait de cette rencontre entre le président Barack Obama, ses homologues africains et lui-même.
Ce sommet convoqué par le président Obama, qui est un sommet convoqué pour la première fois sous ce format entre l'Afrique et les États-Unis, va certainement être un moment de déclic pour apporter des réponses attendues sur notre coopération commune entre l'Afrique et les États-Unis, sur les thèmes qui sont actuels, tels que la sécurité et la paix en Afrique, les thématiques sur la jeunesse, l'avenir du continent, mais surtout sur l'investissement. Puisque depuis plus de 10 ans, depuis la mise en place de l'AGOA, nous avions compris que l'avenir des relations, c'était moins l'aide que le partenariat à partir de l'investissement et du commerce. Mais il y a des obstacles. 10 ans après, 12 ans après, nous devons faire le point et donner une nouvelle dynamique à cette coopération entre l'Afrique et les États-Unis.
Le président Macky Sall du Sénégal est bien sûr dans la partie magazine de cette édition. Nous entendrons ses réflexions sur le procès de Karim Ouad, le fils de son prédécesseur, un procès qui se poursuit à Dakar.
Deuxième journée aujourd'hui et justement du procès de Karim Ouad à Dakar. Et il est accusé d'enrichissement illicite. À l'audience de ce lundi, la cour a condamné à 2 ans de prison ferme un partisan de Karim Ouad qui avait bruyamment protesté et traité les magistrats de corrompus à l'ouverture du procès le 31 juillet. Reportage Diana Bassélouba.
La bataille de procédure fait encore rage ce lundi, deuxième journée du procès de Karim Wad. À l'entame, la Cour a rejeté les exceptions de nullité soulevées jeudi dernier par les avocats de l'État relatives à la constitution d'anciens ministres. Donc, avec le rejet de ces exceptions, Maître Amadou Sall, Madi Kenyang, Souleymane Ndiaye et Alune Padara Cissé peuvent continuer à plaider pour Karim Wad. Mais la défense conteste depuis le début de l'audience la compétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite à juger Karim Wad. Selon les avocats du fils d'Abdoulaye Wad, la CRII est incompétente pour juger Karim Wad et que seule la Haute Cour de justice peut statuer sur le dossier Karim Wad puisqu'il était ministre au moment des faits qui lui sont reprochés. Les débats sont encore ouverts, l'audience suit son cours. Juste rappeler que Karim Wad devra justifier un patrimoine de 116 milliards de francs CFA. Il comparait avec 7 autres personnes présentées comme ses complices et quelques 92 témoins sont annoncés à ce procès. Dina Basseidouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
L'inquiétude s'accroît autour de l'épidémie d'Ebola, notamment en Afrique de l'Ouest. Avec l'aide de la communauté internationale, les autorités des trois pays concernés ont récemment pris des mesures de grande envergure pour contenir la maladie. Sarah Diaby.
Le virus Ebola se propage à grande vitesse en Afrique de l'Ouest. Le bilan publié ce lundi par l'OMS s'élève à 1603 cas, y compris près de 900 morts, dont des dizaines de nouveaux décès en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Déclarée en Guinée en février dernier, où elle a fait près de 300 morts, l'épidémie s'est propagée dans la sous-région. Le Nigeria a déclaré son deuxième cas, un médecin qui a traité le premier patient mort. Alors qu'un citoyen américain contaminé en Afrique a été rapatrié aux États-Unis, Washington a décidé l'envoi de 50 experts en santé publique pour aider les trois pays les plus touchés. Ils devraient arriver en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria à la fin du mois. L'Organisation mondiale de la santé a de son côté annoncé un plan d'urgence de 100 millions de dollars pour aider à enrayer l'épidémie. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols en direction des pays gravement touchés. L'état d'urgence a été décrété par le président sierra-léonais et les écoles et marchés ont été fermés par son homologue libérien. Un sommet d'urgence s'est tenu le 1er août à Conakry, dans la capitale guinéenne, sur le virus Ebola.
En République centrafricaine, un mouvement de grève et une manifestation ont perturbé certaines activités à Bangui. Le point avec Félix Yepassis Zembro.
La grogne observée aux premières heures de la matinée avait paralysé la circulation et pénalisé les usagers, contraints de faire des kilomètres à pied. Les conducteurs de taxis et bus sont revenus à de bons sentiments au début de soirée, après des médiations menées par Guy Damango, directeur général de la Gendarmerie nationale, et Arnaud Djoubaye Abazin, ministre des Transports. M. Damango a rassuré les mécontents que leurs revendications sont prises en compte. Le nombre des checkpoints sera réduit. Autre mouvement de protestation à Bangui, c'est celui des femmes. Elles étaient plusieurs milliers à manifester aujourd'hui devant le siège de la MINUSCA. Ces femmes protestaient contre une éventuelle entrée des membres des groupes armés dans le prochain gouvernement. Dorothée Mbokani est membre de l'Organisation des femmes centrafricaines.
Nous, nous ne voulons plus qu'il y ait encore des changements sur la tête de l'État. Il faut que le VPO présidentiel, CNT et puis la primature restent pour continuer la transition.
Par ailleurs, le bilan des affrontements meurtriers à Batangafo, dans le nord du pays, a été revu à la hausse. Le cluster protection de l'ONU en Centrafrique a parlé de 25 morts et plusieurs dizaines de blessés. Il appelle les belligérants au respect des droits des populations civiles.
Entre 5 000 et 10 000 Égyptiens fuyant les combats en Libye sont encore bloqués à la frontière avec la Tunisie, a indiqué Sameh Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères, lors d'un déplacement à Tunis destiné à faciliter leur rapatriement. Le gouvernement tunisien a prévenu qu'il n'ouvrira pas de camp pour prendre en charge en masse des réfugiés étrangers, comme cela avait été le cas en 2011.
En Libye, le Parlement issu du scrutin du 25 juin a tenu sa première réunion formelle à Tobrouk, à 1500 km de Tripoli, la capitale. Tripoli commençait à être secouée depuis plusieurs jours par des combats entre milices rivales. Jean-Roger Bion.
Quelques 160 parlementaires sur 188, d'après l'AFP, avaient fait le déplacement à Tobrouk, à 1500 km à l'est de Tripoli, épargnés pour le moment par les violences. Les élus islamistes et leurs alliés de la ville de Misrata, dans l'ouest du pays, ont boycotté la cérémonie de Tobrouk, la qualifiant d'anticonstitutionnelle. Mais la présence de représentants de la Ligue arabe, de la mission de l'ONU en Libye et de l'organisation de la conférence islamique semble toutefois avoir légitimé la réunion inaugurale de Tobrouk, selon les observateurs. Au même moment, à Tripoli, les combats qui font rage depuis le 13 juillet opposent toujours des milices rivales dans le sud et l'ouest de la capitale, selon l'AFP. Les espoirs de paix en Libye sont portés par le nouveau Parlement qui aura la lourde charge de rétablir l'ordre et l'autorité de l'État.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvelles frappes israéliennes à Gaza. Selon les services de secours palestiniens, un camp de réfugiés a été attaqué quelques minutes seulement après la déclaration par l'État hébreu d'un cessez-le-feu unilatéral. Une fillette de 8 ans a été tuée, 30 autres personnes ont été blessées. Les opérations se poursuivaient à Rafah, Michel Joseph.
Aux premières heures du 28e jour de l'opération Bordure protectrice, Israël a instauré une trêve humanitaire, sauf à Rafah, où des affrontements sont encore en cours. Le Hamas n'a pas annoncé de pause et le djihad islamiste, son allié, qui a annoncé qu'un de ses commandants, Danyan Mansour, avait été tué à Jabalia, pourrait être tenté de conduire des représailles. Environ 200 Palestiniens ont péri sous les bombes à Rafah, dont au moins 10 dimanche dans une frappe sur une école de l'ONU. Lundi matin, avant la trêve, 10 Palestiniens ont été tués dans de nouveaux raids, selon les services de secours, portant le bilan à 1822 morts en 4 semaines de conflit et plus de 8000 blessés. 64 soldats et 3 civils ont été tués côté israélien. Israël poursuit l'opération depuis le 8 juillet pour tenter de faire cesser des tirs de roquettes et détruire les tunnels permettant au Hamas d'intervenir sur le sol israélien.
A signaler qu'une attaque terroriste selon la police israélienne a fait un mort à Jérusalem, le président français François Hollande a de son côté appelé à agir pour mettre fin au massacre à Gaza. C'était un appel lancé en marge d'une cérémonie à Liège pour commémorer la Première Guerre mondiale.
L'armée russe a débuté une série de manœuvres dans le centre et l'ouest de la Russie qui pourraient inclure la région frontalière de l'Ukraine. Par ailleurs, des affrontements meurtriers ont eu lieu hier dans l'est de l'Ukraine alors que les enquêteurs internationaux poursuivent leurs travaux sur le site du crash de l'avion malaisien.
L'ancien porte-parole de la Maison-Blanche, James Brady, qui fut blessé par balle lors de l'attentat contre le président Ronald Reagan en 1981, est décédé à l'âge de 73 ans, a annoncé sa famille lundi dans un communiqué. Ses proches expliquent que M. Brady, qui était devenu un fervent partisan de législation plus restrictive sur la circulation des armes, est mort après une série de problèmes liés à sa santé. Voilà, c'est tout pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Camille Grosdidier et Chérubin Dorcil avec vous. Restez branchés pour la partie magazine de cette émission.
Lancement ce lundi du sommet historique États-Unis-Afrique à Washington. Barack Obama rencontrera les leaders africains demain. La première journée était consacrée à la réflexion sur l'AGOA, la place des femmes ou encore la protection de la nature. Reportage de l'envoyé spécial de la VOA, Nicolas Pineau.
Oui, et c'est le vice-président américain qui a ouvert le bal lors du forum de la société civile. Joe Biden a déclaré que sans elle, il n'y avait pas de démocratie. Problème cependant pour l'administration américaine, cette même société civile ne sera pas présente lors du dialogue entre Barack Obama et les présidents africains mardi et mercredi. Un raté selon le Nigérien Ali Idrissa, coordinateur national du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire au Niger.
Je crois que c'est quand même l'administration américaine doit se dire que c'est une erreur grave à ne pas pouvoir impliquer la société civile dans une rencontre où il y a les chefs d'État africains. Aujourd'hui, la voix de la société civile en Afrique compte. Ça compte dans le cadre de pouvoir pousser à une bonne gouvernance, surtout de nos ressources. Aujourd'hui, surveiller la gestion de ces ressources, on ne peut pas exclure la société civile dans ce dialogue.
De nombreux chefs d'entreprise participeront à ce sommet placé sous le thème d'investir dans la nouvelle génération.
Selon les chiffres de la Banque africaine de développement, l'espérance de vie a augmenté en Afrique. Elle était en moyenne de 58 ans en 2011. Même chose pour le taux de scolarisation primaire qui a atteint 77%. Écoutons Donald Kaberuga, le président de la BAD.
Entre 2005-2006, on a eu beaucoup d'investissements dans ce qu'on appelle le domaine extractif, donc des mines, le pétrole, le gaz. Et puis après, il s'est étendu au domaine des services, et surtout technologies d'information, des infrastructures, des services divers.
Selon la Fondation Mo Ibrahim, la bonne gouvernance aussi a fait des progrès dans 46 pays africains sur 52 entre 2000 et 2013. Cela prend en compte la sécurité, le respect de la loi, les droits de l'homme et les progrès économiques. Voici le milliardaire soudanais Mo Ibrahim.
On note que 94% des Africains aujourd'hui vivent sous des meilleurs gouvernements que 10 ans auparavant. C'est la mesure de la bonne gouvernance, donc on avance. La bonne gouvernance progresse et c'est ça la bonne nouvelle concernant l'Afrique.
Demain, place aux choses sérieuses avec le début des réunions entre Barack Obama et les leaders africains. Nicolas Pineau, Washington, La Voix de l'Amérique.
En marge du sommet, Idrissa Seydou Dia s'est entretenu avec le président Macky Sall du Sénégal. Actualité oblige, il lui a posé une question sur le procès de Karim Wade, l'ancien ministre et fils de son prédécesseur, qui est accusé d'enrichissement illicite.
Oui, il s'agit d'un développement plutôt rare en Afrique, le seul autre exemple étant probablement celui de l'ex-président égyptien Hosni Moubarak et de ses fils. Naturellement, le président Sall se doit d'éviter des commentaires qui pourraient porter préjudice au cas devant le tribunal. Donc, je lui ai demandé de parler de la philosophie qui l'a amené à faire juger Karim Wade.
Oui, moi, j'ai en charge en tant que président de la République la politique du pays. Et dans la politique, vous avez la politique judiciaire. Dans cette politique que moi j'ai initiée, il y a déjà dans mon programme de candidat la reddition des comptes et le fait également que tous ceux qui sont dépositaires de mandats publics doivent désormais pouvoir rendre compte. C'est un principe de base en démocratie. Et j'ai mis en place des dispositifs déjà pour notre gouvernance à nous. Depuis lors, nous avons créé l'OFNA, qui est l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, qui est aujourd'hui en pleine croissance et qui va recevoir l'ensemble des déclarations de patrimoine. Moi-même, j'ai fait ma déclaration de patrimoine, c'est la première fois que ça se fait au Sénégal. Et l'ensemble des assujettis, c'est-à-dire des personnels qui gèrent, ou des autorités qui gèrent des fonds publics supérieurs à 2 millions de dollars, par exemple, sont tenus de faire une déclaration de patrimoine. Donc ça, c'est une dynamique nouvelle que j'essaie d'imprimer, qui n'est destinée contre personne, mais c'est plutôt pour le bonheur du Sénégal et pour la préservation de ses ressources.
Pour le président Macky Sall, il s'agit donc d'une dynamique nouvelle à laquelle les gens qui acceptent des responsabilités publiques devront désormais se faire. Il a lui-même fait sa déclaration de patrimoine et ce n'est dirigé contre personne, a tenu à préciser M. Sall.
Imaginez que dans 10 ans, que cela redevienne le principe et que mais c'est toute notre économie qui va bénéficier et c'est toute la société sénégalaise qui gagnera dans ce principe. Donc, mais comme nous sommes en phase de démarrage, les transitions sont difficiles, mais très vite, les gens se rendront compte que c'est ça la norme. Aux États-Unis, ça se fait, ça ne dérange personne. Mais nous, nous venons de le commencer, donc c'est normal qu'il y ait des difficultés. Mais je pense que dans quelques années, tout le monde comprendra que si on veut prendre un mandat public, il y a des contraintes et soit on accepte d'y aller avec les conséquences, c'est-à-dire on n'a plus la liberté de faire ce qu'on veut, on doit rendre compte régulièrement, on doit faire la reddition et au besoin, à la fin de son mandat, on doit aussi faire une nouvelle déclaration de patrimoine. Donc ça, c'est vraiment dans la gouvernance que j'ai initié cela. Je sais que ça ne plaît pas, y compris dans mon propre camp, puisque les gens ils considèrent que le pouvoir, c'est l'exercice aussi des privilèges. C'est le lieu où on doit pouvoir se réaliser selon sa volonté. Or, malheureusement, ce n'est plus le cas.
Voilà, Gabi, ça, c'était le président Macky Sall du Sénégal qui répondait à une question sur le procès Karim Wade.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaolack.
À Brazzaville, les avocats de Marcel Nsuru, dans l'affaire dite de la fusillade du 16 décembre, fustigent l'attitude peu professionnelle des médias d'État qu'ils accusent de déformer les propos de leurs clients. Ils ont appelé à plus d'objectivité dans le traitement de ce sujet d'actualité et à un accès plus facile pour tous les journalistes dans la salle d'audience. Des détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguelan Goussou.
Les avocats de Marcel Nsuru sont remontés le week-end dernier contre les médias d'État qui manqueraient d'objectivité dans le traitement du procès en cours. Ces avocats estiment que leur client est constamment noirci à travers les reportages diffusés à la radio et à la télévision nationale. Maître Eric Yvan Ibuanga.
Au journal de 20h de Télé-Congo, j'ai suivi le reportage. Je vous assure que j'ai eu du mauvais sang parce que on passait l'image du colonel Marcel Nsuru qui parlait, mais le journaliste qui faisait le commentaire disait le contraire, en tout cas le contraire de ce que le colonel Nsuru avait déclaré à l'audience. Père, j'en veux pour preuve. Le chargé de la sécurité des Nations Unies n'a jamais dit au colonel Nsuru faut sortir ta famille, faut sortir tes employés. Il n'est jamais venu pour ça. Et le colonel Marcel Nsuru n'a jamais fait cette déclaration. Mais dans le commentaire de Télé-Congo, c'est ce qui a été mis en relief. Nous, du côté de la défense, nous ne pouvons pas accepter ça parce que ce commentaire-là est défavorable au colonel Marcel Nsuru.
Il faut dire qu'il n'est pas aisé pour la presse privée de travailler dans ce procès au risque de se voir saisir la caméra ou l'appareil photo ou simplement se voir refuser l'accès dans la salle. Toutefois, le procès se poursuit normalement. À la dernière audience, des armes saisies au domicile de Marcel Nsuru ont été présentées au tribunal. Mais l'accusé Nsuru n'en a pas reconnu une seule, telle que le dit ici son avocat, Amadé Nganga.
Ces scellés-là sont des armes en réalité qui sont parties ramassées par-ci par-là et qu'ils nous ont apportées puisqu'ils ne peuvent pas démontrer la légalité de ces scellés dans la mesure où il n'y a jamais eu de perquisition. Comment pouvez-vous avoir des scellés quand vous n'avez pas fait de perquisition? Et même légalement, il est impossible par le parquet de démontrer que ces armes-là étaient des armes du colonel Nsuru à défaut de perquisition. Or, il est établi qu'ils n'ont jamais fait de perquisition. L'infraction doit exister préalablement à la perquisition. Si vous n'avez pas l'infraction, comment vous allez perquisitionner?
Ce matin, les audiences des accusés vont se poursuivre. Encore une bonne cinquantaine à entendre. Nguelan Goussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
On enchaîne avec la Côte d'Ivoire. Malgré la suppression de nombreux barrages militaires illégaux et l'arrestation de plusieurs soldats qui rançonnaient les populations, le racket se poursuit sur plusieurs axes routiers. Des pas ont été franchis, mais beaucoup reste à faire, nous dit notre correspondant à Abidjan, Germain Dri.
Le racket exercé par les forces de sécurité ivoiriennes et son lot de tracasseries aux barrages routiers coûte illégalement 350 milliards de francs CFA par an aux transporteurs locaux, selon une étude menée par la Banque mondiale en 2008. Cet état de fait d'agents véreux constitue un obstacle à la libre circulation des biens et des personnes en Côte d'Ivoire, en même temps qu'il porte un impact négatif sur l'activité économique du pays. Avec le démantèlement de plusieurs barrages et le licenciement de quelques agents, le niveau de ce fléau connaît un répit. Charles Kouakou.
Le racket a beaucoup baissé. Ce n'est plus comme avant, c'est au niveau surtout des FRC. Ce n'est plus comme avant, mais la plupart ce sont les FRC. Voilà, que moi je vois en train de prendre quelque chose à 100 francs, 200, 500 francs. Même quand vous arrivez à un corridor, c'est toujours les FRC qui vont prendre l'argent et puis après ils vont se partager entre les policiers et la gendarmerie.
Arunan Traoré, chauffeur de Baka, estime qu'il faut y mettre un terme.
Le racket continue, on nous prend déjà dans ses routes. Qu'on aura arrêté, quoi.
Selon Yehou Julien Charlemagne, les causes du racket sont multiples.
C'est lié beaucoup à la pauvreté, non seulement à la pauvreté du ventre, mais à la pauvreté de l'esprit. C'est pas facile. Même quelle que soit l'augmentation des salaires de ces personnes, il y a un réflexe. Dans tous les domaines, hein, ce qui est plus visible, c'est ceux qui posent des actes peut-être plus odieux tels que les corabillés, même dans la fonction publique. Dans tous les domaines, on s'attend à quelque chose parce qu'on veut soutirer quelque chose, mais c'est un comportement.
Les conséquences sont énormes et graves pour les populations, dit Kofi Kwame, Christian Alain.
Le racket appauvrit la population. C'est difficile de refuser un pot de vin parce que quand on sait qu'en prenant ça, ça peut gérer la popote à la maison ou bien ça peut gérer l'ordonnance d'un enfant ou bien ça peut gérer la scolarité d'un enfant, comprenez qu'on ne peut pas dire non. Je souhaiterais que l'État essaie de mener une bonne politique sociale de sorte que quand les ménages retrouvent leur joie, quand les plus pauvres ont facilement accès à la santé, facilement accès à l'éducation, je crois que ça va régler le problème, les choses pourront aller.
Soro Jean-Jacques pense que les dispositions légales peuvent être mises en place.
Pourquoi ne pas mettre en place, par exemple, dans chaque région, des organes chargés de lutter contre la corruption? Par trimestre, ils peuvent nous faire, par exemple, le point. Et en ce moment, on peut sanctionner.
Quant à Yohou Julien, l'État doit agir.
Il faut frapper et il ne faut pas frapper dans le secret. Il faut qu'on présente ça publiquement.
Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Et comme chaque jour, ce thème annonce la page sport qui nous sera présentée aujourd'hui par Jacques Aristide. Bonsoir, petit Jacques.
Bonsoir, Gabi, chez Ruben Dorsil.
En fait, surpris, je me perds les voix.
Bonsoir, Camille.
Bonsoir.
La liste des 7 groupes du 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 est pratiquement complète après les matchs retour du deuxième tour.
Effectivement, chez Ruben, des rencontres qui se sont déroulées au cours du week-end écoulé qui ont abouti à la qualification des 7 dernières sélections pour l'ultime tour de ces éliminatoires de la CAN, qu'abritera le Maroc du 17 janvier au 8 février 2015. Pour rappel, la phase des groupes du troisième et dernier tour se déroulera entre septembre et novembre, et dont la première journée programmée les 5 et 6 septembre prochains. À l'issue de ce tour, les deux premiers des 7 groupes et le meilleur troisième en sus du pays hôte animeront la phase finale de la CAN Maroc 2015.
Il y a aussi eu la dernière phase des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans.
Plusieurs matchs étaient au programme ce week-end. Les deux grosses surprises, ce sont la République démocratique du Congo et le Maroc qui ont été éliminés de la course. Seul le Ghana est directement qualifié pour le troisième et dernier tour des éliminatoires après le retrait du Soudan du Sud. Quant au Gabon, son équipe était sur le pont samedi à l'occasion de ce match retour du deuxième tour de la CAN des cadets face à l'Éthiopie, déjà contrainte au nul 0 partout à l'aller. Les Gabonais ont brillamment obtenu leur billet pour le dernier tour grâce à leur succès 3-0, notre correspondant Fritz Koum.
Dominateurs en première période, les Gabonais maladroits n'ont pas réussi à tromper le portier visiteur Guillo Diobet. En seconde période, suite au changement opéré par l'entraîneur Assoumoueyi Patrick Di Capello, ils vont scorer à 3 reprises. Le rentrant Gouba Moudouhi transforme 2 pénaltys aux 65e et 70e minutes avant que Mboula Mayoulou Martin ne marque le 3e but à l'ultime minute du match. La satisfaction d'Assoumoueyi.
Bon, j'éprouve un sentiment de satisfaction et de joie. Dans la mesure où je n'avais jamais imaginé que ces jeunes joueurs qui faisaient leur premier pas sur le plan continental pouvaient bien se comporter à Libreville sans avoir peur et jouer leur football. Et ce que j'ai demandé, ils ont respecté les consignes. Je pars de là très satisfait du résultat de cet après-midi et de la qualité du jeu.
Une première période assez difficile tout de même.
Pas difficile, c'est nous qui avons compliqué le match. Si on marque les premières occasions, je pense que le match n'est plus le même. Nous avons raté, peut-être que ça nous a fait du bien, nous nous sommes remis en question. Et en revenant en deuxième mi-temps, on a remis les batteries en marche et je pense que nous avons fait l'essentiel cet après-midi.
Signalons qu'au troisième et dernier tour, le Gabon sera opposé au Nigeria pour une place en phase finale en 2015 au Niger. Fritz Koum, La Voix de l'Amérique.
La Côte d'Ivoire maintenant, le pays de mon enfance. Alors Jacques, la SEC d'Abidjan a remporté la 51e édition de la Coupe nationale.
Effectivement Camille, les Mimosas ont battu le Subway Sport de San Pedro. J'espère que j'ai bien l'accent, peut-être pas quand même.
Pedro.
San Pedro, ben voilà. Champion de Côte d'Ivoire sur le score de 2-1. C'est le Seaway qui a ouvert le score à la 27e minute grâce à une réalisation d'Herman Kouawo. L'égalisation pour la SEC est survenue à la 64e minute avec une pichenette de Balois Davila. Le but de la victoire pour la SEC a été marqué dans les prolongations par Bouakofi Davi.
Football en Europe, les Blues de José Mourinho ont pris l'eau chez le Werder Bremen en amical.
Eh ben oui, un premier accro durant cette période estivale et surtout avec le retour de Didier Drogba chez les Blues. Et donc il est de taille, Chelsea a concédé une lourde défaite hier sur la pelouse du Werder Bremen 3-0.
Merci Jacques Aristide. Michel Joseph a dirigé la mise en onde. Wagner Robert était à la console technique. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. C'était Chérubin Dorsil
et Camille Grosdidier.
Prochain rendez-vous dans une demi-heure.